Alors en reprenant le... Alors le moment où j'en étais toujours dans la vie de Saint-Augustin, et j'avais dû vous citer l'appréciation qu'avait donnée le Hans von Kampenhausen, le patrologue allemand, qui disait, alors je redis la phrase, hein, il possède le don rare, jailli de sa liberté et de son assurance intime, de rendre compréhensible ce qui est profond, limpide ce qui est compliqué, sans jamais dire de façon banale ce qui est simple. Donc c'est un bel éloge. Hein. Alors je vous avais dit que Augustin avait transposé, alors quand il avait été attiré à Hippone par l'évêque démissionnaire presque, il va transposer à Hippone son mode de vie, autrement dit le monachisme urbain, finalement inspiré des premiers chapitres des Actes des Apôtres. Et donc, vous savez, il va prêcher pour, à la place de cet évêque qui avait du mal à s'exprimer en latin. Et devenu évêque, donc quand il va succéder à Valérius, eh bien, il abandonne le gouvernement de sa communauté, mais il invite tous les prêtres de sa cité épiscopale à vivre en communauté avec lui. Et d'une certaine manière, l'évêque devient l'abbé de son presbytérium. Évidemment, il ne le demande pas aux prêtres qui habitent à la campagne. Mais comme vous savez, dans l'Afrique du Nord romaine, il y a à peu près un évêché par bourgade. Alors, voilà. Et alors, ce monastère urbain d'Hippone, qui n'est quand même pas la plus petite ville d'Afrique du Nord, deviendra une véritable pépinière d'évêques. Et sa règle donc va inspirer au Moyen Âge les chapitres réguliers, séculiers, et puis tous ceux qui vont s'en inspirer au moment de la fondation des ordres mendiants, et en particulier les dominicains. Et voilà, donc la règle de Saint Augustin, qui est vraiment très très petite, hein, c'est quelques feuillets. Au chapitre, premier paragraphe du premier chapitre, dit « Le premier objectif de notre vie en commun est d'habiter ensemble, en bonne intelligence, et de n'avoir en Dieu qu'un cœur et qu'une âme. » Vous voyez, « Cor unum et anima una », c'est dans les Actes des Apôtres. C'est même chapitre 4, verset 32 des Actes. Donc, je me souviens qu'il y avait un petit vitrail dans notre salle d'exercice au séminaire à Rome où c'était écrit, pour qu'on s'en souvienne. Et il est intraitable sur l'esprit de pauvreté. Il pousse au renoncement obligatoire à toute propriété personnelle. Il s'agit de vivre à la manière des apôtres, dit-il, qui ont tout quitté pour suivre le Christ. C'est règle 1.4. Et l'objectif, c'est de parvenir à une parfaite charité. Donc, vous voyez, cor unum et anima una. Un seul cœur, une seule âme. Alors, voilà ce qu'il dira, par exemple, dans le De Civitate Dei, où il oppose la sagesse chrétienne à la sagesse païenne. Au livre 19, au chapitre 19, il dit « L'amour de la vérité exige un saint repos. » Vous voyez, c'est la vieille idée antique de l'otium, du repos, pour vaquer aux choses de Dieu, c'est-à-dire pas être stressé par les choses d'en bas, quoi. Donc « L'amour de la vérité exige un saint repos. Le commandement de l'amour, lui, se contente de bien moins que cela. Si personne ne nous impose cette dernière chose, on peut entièrement vaquer à la connaissance et à la contemplation de la vérité. Si elle nous est imposée, il faut l'accepter pour l'amour du commandement de charité. Néanmoins, il ne faut pas renoncer totalement à jouir de la vérité, sinon toute douceur s'en va et la nue contrainte du devoir nous jette à terre. Vous voyez, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment de goûter cette vérité qui est découverte dans ce climat de charité. Et on arrive à être, comme disent les pères, un vir ecclesiasticum, c'est-à-dire à coïncider en quelque sorte avec l'Église, ne faire plus qu'un avec l'Église. Ce qui est un peu la définition de la sainteté, hein, ne faire plus qu'un avec le Christ. D'ailleurs, je pense que c'est ce que les protestants n'ont jamais compris quand ils critiquent la sainteté ou ils critiquent les saints. En fait, les saints ne font pas nombre au Christ, hein, mais en vertu du baptême, ils se confondent avec lui. En fait, ils deviennent transparents dans le Christ. Donc, en fait, ils ne retirent rien, ni n'ajoutent rien à la médiation du Christ. Ils s'intègrent en elle. Voilà. Donc, oui, alors ils s'imaginent que ce sont comme des intermédiaires entre le Christ et l'âme. Mais pas du tout. Les saints sont dans le Christ, donc ils ne sont pas des intermédiaires. Alors, arrivé à 72 ans, en 426, Augustin voulut se démettre de sa charge d'évêque. Mais les canons du concile de Nicée de 325 ne lui permettaient pas de renoncer à sa charge. Il faudra attendre Vatican II pour que les évêques prennent leur retraite à 75 ans. Hein. À l'époque, on ne prenait pas de retraite. Et il s'éteint donc 4 ans plus tard, en 430, exactement le 28 août 430, date de sa fête. Hein, c'est bien son dies natalis que l'on fête. 28 août 430, au troisième mois du siège de sa ville épiscopale par les Vandales. Et ses restes ont d'abord été transférés en Sardaigne, donc dans un endroit civilisé, si j'ose dire. Et puis ensuite, c'est le roi Liutprand de Lombardie qui les a acquis et qui les a fait transférer à Pavie au 8e siècle dans une belle basilique que quelques-uns d'entre nous, enfin au moins moi, cet été, avons visité. Et alors, ce qui est d'ailleurs touchant, c'est que dans la crypte, il y a les restes de Boès, docteur de l'Église que l'on verra un peu plus tard, et il y a une toute petite dalle, toute simple, un peu sur le côté au pied d'un pilier, qui est celle du roi lombard qui a voulu être inhumé à côté des saints docteurs qu'il avait honorés. C'est Pavie, 1525, ça rappelle des souvenirs. Et donc Augustin avait passé, lui qui était toujours à la recherche de Dieu, avait passé ces derniers mois à galvaniser la défense civile et militaire de sa cité. Et lorsqu'il sentit sa fin venir, il voulut se préparer dans la solitude, en pleurant et en priant. Posidius, qui était son ami depuis quasiment le baptême et qui sera son biographe en même temps que son successeur, dit qu'il n'a pas fait de testament parce qu'il n'avait rien, sinon sa bibliothèque, qui fut sauvée et dont le contenu nous a été conservé justement par Posidius, l'Indiculus, qui est une sorte de comment dire, oui, d'index de tous les ouvrages que Augustin possédait, que la bibliothèque diocésaine en quelque sorte possédait. Alors, il conclut, Posidius, que par-delà sa science, ce qui charmait était son commerce avec les gens. Autrement dit, Il était, vous voyez, pas enfermé en lui-même. Hein, et ça transparaît, vous voyez, dans ses écrits. On voit par exemple qu'il peut utiliser toutes les richesses de la rhétorique latine dans sa correspondance, quand il écrit à des lettrés ou dans ses traités. Mais en revanche, par exemple, dans les sermons, il parle le langage des simples, hein, de manière à se faire comprendre. Donc la rhétorique de saint Augustin, finalement, elle n'est pas tellement, elle n'est pas faite pour se glorifier, hein, mais elle est faite surtout pour que les gens puissent comprendre ce qu'il dit. Et alors, bon, vous me direz que la plupart du temps, ils étaient pris en sténo par des auditeurs. Donc, qui peut-être simplifiait ce que disait Augustin, mais Augustin les relisait et les faisait publier. Mais donc, il avait choisi de pouvoir parler. C'est un peu un signe des saints, par exemple, saint Thomas d'Aquin aussi, qui était rompu à la littérature latine. Par exemple, dans sa somme de théologie, qui est faite pour les incipientes, donc pour ceux qui commencent. Alors, ceux qui commencent, bah, c'était des garçons de 16-17 ans, hein, par là, 18 éventuellement, qui venaient de différentes régions d'Europe. Bon, normalement, ils savaient tous le latin, évidemment, mais en tout cas, ils leur parlent d'une manière très simple. Ils utilisent un latin extrêmement simple, pas un latin compliqué, comme on peut trouver dans certains traités ou certaines questions disputées qui s'adressent plus à des professeurs. Donc voilà. Et alors Augustin deviendra véritablement le maître à penser de l'Occident. Il est l'un des quatre docteurs de l'Église d'Occident, même l'un des quatre docteurs de l'Église universelle. Vous les avez sur la, vous savez, le truc du Bernin, la chaire de Bernin, oui, à Saint-Pierre de
Saint-Pierre,
Rome.
tout à fait.
Avec Ambroise, Augustin, et puis Chrysostome et Athanase de l'autre côté. Alors, maintenant, on va voir, c'est le grand B dans votre plan, les controverses qu'il a dû soutenir et leur théologie, donc la théologie afférente à ces controverses. Avec donc l'épiscopat, c'est clair que son travail est devenu moins philosophique et plus pastoral. Il a eu à s'occuper finalement des questions qui concernaient son évêché, et en particulier les hérésies, les schismes, ou même les questions des autres évêques de sa province. Alors, les premières controverses, c'était le petit 1. Alors, ce sont des controverses qui sont liées aux doctrines qu'il avait dû connaître quand il était lui-même à la recherche de la vérité. Vous vous souvenez qu'il avait été confronté d'abord aux manichéens et qu'il avait, disons, adhérer faute de mieux à cette doctrine, mais en percevant qu'elle n'était pas juste. Et après, on verra qu'à peine arrivé sur son trône épiscopal, il s'est retrouvé face à un schisme, celui des donatistes, qui a été nettement plus dur à réduire. Alors, les manichéens. Devenu prêtre, puis évêque, il va terrasser ses contradicteurs en deux disputes publiques. À l'époque, il y avait des disputes publiques, qui étaient d'ailleurs arbitrées parfois par le comte de la province, donc l'administrateur civil, ou par exemple le comte Boniface, qui était un de ses grands amis, ou par d'autres fonctionnaires ou magistrat. Alors, dans deux de ses écrits, dont un qui s'appelle le De Natura Boni, donc de la nature du bien, il aborde trois thèmes. l'origine du mal. Vous souvenez que chez les manichéens, il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, comme il y a la lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre. On pourrait dire il y a le yin et le yang, il y a le truc. Bref, on est dans un dualisme où les deux opposés sont d'égale valeur. Eh bien, Augustin, qui a été sur ce point pas mal libéré par sa découverte du platonisme, va poser que l'origine du mal, c'est l'absence de bien dans une créature fondamentalement bonne, créée fondamentalement bonne par un Dieu qui est lui-même bon. Donc vous voyez, le Dieu bon crée une créature bonne et il arrive qu'il y ait des défauts dans cette créature. Et pour expliquer cette présence de défauts, eh bien, il va trouver dans l'Écriture sainte la doctrine du péché originel, qui est la raison pour laquelle des biens qui sont dus à la perfection de notre nature nous manquent, et donc que nous expérimentons un mal. Et donc ça s'oppose justement au dualisme des manichéens.
Est-ce qu'on peut dire que la doctrine de Rousseau, c'est une sécularisation de ce principe-là, du coup
Du manichéisme.
Du fait que la personne est fondamentalement bonne, et que...
Oui, alors certainement... alors lui, Rousseau dit que c'est la société qui corrompt la nature bonne. À mon avis, c'est quand même faux, parce que ce qui est vrai, c'est que la nature est corrompue. Elle est corrompue. Donc il n'y a pas d'état de... Il n'y a pas de paradis originel hors de la vie sociale, d'autant plus que la vie sociale est naturelle, en plus. Donc quand il parle de l'état du bon sauvage, de toute manière, c'est quand même des villages... oui, voilà, c'est ça, c'est des petits groupes. Alors, par quoi a-t-il bien pu être l'admiration des explorateurs devant
des sauvages?
Oui, c'est ça.
Une sorte de rêve fantasmatique.
Voilà, à partir de quelques remarques d'explorateurs qui disaient, tiens, telle peuplade ne connaît pas la jalousie ou ne connaît pas je ne sais quoi, on en a extrapolé que finalement tous les sauvages étaient des gens extrêmement gentils, quoi. Mais il suffit de voir aussi par exemple le cannibalisme dans un certain nombre d'îles ou des trucs de genre. Bref, c'était pas tout à fait vrai, quand même.
Mais c'était fait en toute innocence. Je pense que c'est ça la justification.
Oui, peut-être. Oui, ça veut dire que si c'est fait en toute innocence, ça veut dire quand même que l'occultation de la conscience devait être considérable. Parce que ne pas s'apercevoir qu'on manque un devoir moral, ça veut dire qu'on a quand même la conscience anesthésiée.
Je pense qu'il l'avait, puisque ils faisaient ça de tout temps.
Certains sauvages, oui.
Je suppose que c'est l'argument de...
Mais notamment, par exemple, certaines religions, la religion aztèque, ils faisaient ça, évidemment, et même c'était un acte social de sacrifier des gens, d'ailleurs faire des guerres pour obtenir des prisonniers, leur arracher le cœur, etc. Parce que sinon, les pauvres, le soleil pouvait plus se nourrir, et plus de soleil, plus de vie. Donc ce qui veut dire que... Il y a ce que Jean-Paul II appellera plus tard des structures de péché, c'est-à-dire il y a une sorte de sédimentation des erreurs religieuses, philosophiques et autres qui finissent par créer une mentalité qui légitime le mal, en fait.
Excusez-moi, je suis désolé. Les manichéens, le mal, ils le voient comment?
Il le voit comme un coprincipe de l'existence du monde. Et du coup, ils vont prendre des analogies, évidemment, comme celle de la lumière et du ténèbres. D'ailleurs, il y a le dieu de la lumière, le dieu des ténèbres.
Mais la responsabilité de l'homme dans le mal n'est pas abordée par eux. Le fait que l'homme choisisse le mal...
Non.
Choisit le mal, excusez-moi de...
Non, je crois pas. Pour eux, c'est une...
C'est le co-principe du monde. Ça veut dire qu'à la limite, Dieu est un peu dans le mal.
Il y a un dieu du mal et un dieu du bien.
Ça veut dire qu'il donne
Oui, enfin, oui, voilà. Donc, et puis les hommes se répartissent. Alors, il faudrait détailler, parce que le manichéisme s'enracine dans la pensée religieuse perse. Et ensuite, c'est un prêtre hétérodoxe qui en a fait une doctrine qui est passée à l'Ouest, enfin, qui est passée en Occident.
Mais est-ce que... prêtre crédible.
Oui, Manès, oui.
Est-ce que ça ne ressurgit pas, le manichéisme, dans les traditions chrétiennes?
Ah bah si, ça ressort avec les Bogomiles, les Cathares, etc.
Non, mais aujourd'hui, enfin, depuis deux siècles, dans les temps modernes.
Oh, bah, je pense que dans tout ce qui est anesthésie de la conscience, quand on dit, bah, finalement, on est victime.
Voilà. Vous voyez,
tous les déterminismes...
Oui, on est victime.
Voilà. Oui, oui, c'est ça, on est... Par exemple, du coup, qu'on appelle même plus le mal, mais, oui. Mais quand on dit qu'on est déterminé par nos pulsions, finalement, il y a des pulsions bonnes et des pulsions mauvaises, mais on est le champ de bataille de...
Alors, il nie la liberté.
Voilà. Oui, qui nie la liberté.
Il nie complètement la liberté, les maniques. Si j'ai bien compris, excusez-moi de leur faire.
Oui, bah,
il nie ou l'évacue. Bah.
Alors, pas totalement, parce qu'on a la possibilité de s'arracher, comme toujours dans l'Antiquité, à ce destin par l'ascèse, donc par une ascèse même d'ailleurs radicale, puisque le meilleur moyen de plus connaître le mal, c'est de plus exister. Donc c'est le suicide,
cher,
en fait.
Plus de chair.
Oui,
plus
voilà.
De chair.
Oui,
ça rejoint les cathares, plus de chair.
Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui gênait un peu Augustin, hein, c'est que ça supposait... enfin, disons, il ne suivait pas l'ascèse des parfaits. Enfin, il voyait ça d'un peu loin. Donc, c'est...
Donc, le manichéisme ne s'opposait pas au stoïcisme, en fait.
Non, il était... Le stoïcisme, c'était plus... Stoïcisme, c'est une sorte de panthéisme où le destin appuie enfin, sur tous. Et puis, dans le alors, La morale stoïcienne, c'est une morale du devoir, en fait. Hein.
Mais le destin est bon, en fait. Il me semble que dans Sénèque...
Pour les stoïciens, le mal est une sorte de... Comment dire de point de vue, partiel. C'est-à-dire, on voit... Ce qu'on considère comme étant mal, c'est quelque chose... C'est parce qu'on n'a pas vu la totalité.